y aura de façon habituelle deux temps pour l'adoration, deux temps pour ceux qui sont les adorateurs, mais c'est toujours des temps ouverts à tous bien sûr, mais deux temps qui sont maintenant, donc mois de novembre, et puis mois d'octobre-novembre, et puis un autre temps mois de mai. Seulement deux rencontres par an, qui seront des temps aussi où il y a toujours un apport, un peu un enseignement pour nous permettre de cheminer et de découvrir les voies spirituelles qui nous sont proposées à travers cet engagement qu'est l'adoration. Ça ne résonne pas trop là ? Ça va ? Moi j'ai l'impression que ça me résonne dans les oreilles. Voilà. Il faut que je baisse mon appareil. Voilà, il y aura deux temps. Normalement, à l'anniversaire de l'adoration, le 19 janvier, il y aura peut-être quelque chose qui sera proposé. Mais là, j'avoue que ce n'est pas du tout réfléchi. Je sais que dans les autres lieux d'adoration perpétuelle, ça se fait plus un temps, plus fraternel, plus... Ben, voilà, un temps festif. Mais pour l'instant, j'ai rien. Donc, je ne sais pas si on fera quelque chose. Je ne suis même pas sûr d'être là à ce moment-là. Voilà. Et puis, il y a un autre temps dans l'année, mais qui n'est pas pour vous, qui est pour ceux qui s'inscrivent, les nouveaux qui s'inscrivent. Hein, tous les ans, enfin, pendant l'année, il y a toujours des nouveaux qui s'inscrivent. Et cette année, Yvonne me faisait la remarque, mais j'avais remarqué quand même, qu'il y a eu beaucoup déjà de nouveaux. Il y a aussi des gens qui sont partis, qui ont arrêté, tout ça, puis il y a des nouveaux qui se sont inscrits. C'est normal, hein, il y a un phénomène de renouvellement permanent. Et sur lesquels il faut être d'ailleurs très vigilant pour... il ne faut pas croire que l'adoration, c'est une réalité statique. Hein, où finalement, moi, par exemple, si l'un ou l'autre d'entre vous, ce que je souhaite, peut être fidèle pendant 10 ans, à la même heure, au même jour, tant mieux, mais ce n'est pas la réalité globale de l'adoration perpétuelle. L'adoration perpétuelle, c'est au contraire, c'est quelque chose qui bouge, les gens bougent, donc ça bouge, et aussi... C'est un point très très important, c'est qu'il y en a qui ne sont pas inscrits et qui un jour s'inscriront. Même s'ils savaient que voilà, il leur faut du temps. Enfin voilà, le chemin de chacun ne nous regarde pas, mais voilà, c'est la réalité. Et puis il y a aussi les nouveaux qui arrivent, qui découvrent. Voilà. Voilà, donc c'est un point important. Avant d'aller plus loin, il y a Yvonne qui a à sa disposition. Les feuilles d'explication de l'adoration, pour ceux qui les auraient perdues, vous pouvez en reprendre, ça va vous remémorer les choses. Je voudrais simplement dire un point, c'est qu'il y a le code, le verrou de l'oratoire, qui parfois est fermé en journée. Donc c'est dommage qu'il soit fermé, parce que s'il est fermé en journée, ça veut dire qu'à un moment, il n'y a plus personne à l'adoration. Donc la personne qui est partie a fermé, hein, parce qu'on ne peut pas laisser le Saint-Sacrement comme ça. L'idéal aurait été de rester, mais ce n'est pas toujours possible, donc parfois on ferme. Donc il faut avoir le code avec soi, hein, le code d'accès, pour pouvoir rouvrir quand on arrive à l'adoration. Donc ce que j'expliquais aux nouveaux adorateurs, c'est que fermer comme ça l'oratoire, c'est un peu comme si on fermait un tabernacle, en fait, mais c'est un grand tabernacle, mais c'est cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on met en sécurité le Saint-Sacrement. Évidemment, ça serait mieux que ce soit ouvert tout le temps, mais voilà. Et quand il y a des gens qui vous font des remarques sur cette question-là, oui, je suis allé, c'était fermé, j'ai pas pu rentrer. Ben oui, il faut encourager les gens à s'inscrire. S'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, ben, ça sera de toute façon ouvert, puisqu'il y aura toujours des gens, et même quand quelqu'un ne peut pas, il y aura un autre qui le remplacera et tout ça. Hein, donc, il faut renvoyer les gens à leurs responsabilités. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous situez, avant d'aller aussi plus loin, je ne sais pas si vous situez ceux qui sont les responsables, donc des... Comment ça s'appelle déjà ? Les divisions, j'arrive à jamais. Les divisions, donc il y a Yvonne Chalavou, vous pouvez vous lever parce qu'il y a peut-être des nouveaux, enfin... Yvonne Chalavou qui est responsable de l'ensemble. Ensuite, pour le matin, il y a Frédéric Laforêt. Donc Frédéric Laforêt ne peut pas être là, il est dans une chorale, il chante. Voilà. Donc lui c'est un nouveau responsable de division hein, depuis quelques mois. L'après-midi, il y a Corinne, David et Nathalie Clermont. Donc Corinne, tu peux me lever. Voilà. Nathalie. Le soir, il y a Olivier de Collonges. Je sais pas, il n'est pas là. Il va peut-être arriver plus tard. Bon, voilà. Et puis la nuit, il y a Marie Leclerc. Voilà, qui est là. D'accord. Je me disais, voilà, qui fait ça aussi depuis quelques mois. Voilà, parce que ça aussi, ça tourne. Avec les départs des uns et des autres. Voilà, alors à côté, il y a le groupe de prière des jeunes. Donc voilà, normalement tout à l'heure, ils vont m'interrompre s'ils veulent que je leur expose le Saint-Sacrement à 9h. Vous ne serez pas étonnés, je ferai une coupure. Mais en même temps, l'enseignement, oui, je n'aurai pas fini, je pense. Bien. En introduction, donc c'est toujours, je vais parler de la prière, toujours. Je voudrais simplement rappeler, parce que ça a déjà été dit, mais rappeler un point très important, c'est que l'acte d'adoration est l'acte premier du croyant. Reconnaître que Dieu existe, que Dieu est présent, c'est reconnaître que nous ne sommes plus Dieu, que nous ne pouvons pas nous prendre pour Dieu, que nous sommes des créatures et que nous sommes appelés à adorer notre Dieu. Et ça, c'est présent dans la parole de Dieu de façon très très claire, c'est l'acte premier. Tout l'Ancien Testament, c'est la lutte contre l'idolâtrie. On adore d'autres dieux que Dieu. Des dieux avec un petit d, avec un x, des idoles. Et on peut construire des idoles. Et même nous chrétiens, donc, nous sommes invités à adorer notre Dieu, qui s'est révélé parfaitement en Jésus-Christ, et qui nous a donné le sacrement de sa présence, sa présence, comme dit le Concile Vatican II, au plus haut point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence plus forte que celle-ci, la présence eucharistique. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres présences de Dieu, par exemple en spiritualité, c'est un point important d'ailleurs quand on parle de la prière, il y a une présence de Dieu en nous, dans notre âme, même un être en péché mortel, même un être complètement coupé de Dieu, qui se sépare volontairement de Dieu, donc l'acte le plus fort qui puisse exister, même cet être-là, même cette personne-là, continue à avoir la présence de Dieu en lui. Et donc, on imagine la souffrance de Dieu, ce que ça peut être pour Dieu, quelle souffrance ça peut être pour lui. Donc il y a donc ça, c'est un autre type de présence. Et puis, le Concile Vatican II montre les différents types de présence. Ce n'est pas le Concile qui les a dit pour la première fois. Hein. Il rappelle les différents types de présence dans l'assemblée qui prie, dans la parole de Dieu proclamée, dans l'homélie qui célèbre, etc. Différents types de présence. Mais, donc, nous sommes invités à faire, en adorant, en allant à l'adoration, nous faisons l'acte premier pour lequel nous sommes invités quand nous sommes croyants et quand nous voulons vraiment vivre en chrétien. Reconnaître que Dieu est Dieu. L'adorer, non pas comme un Dieu qui nous écraserait, mais comme un Dieu d'amour qui veut nous élever, qui veut nous attirer jusqu'à lui. L'oratoire que nous avons fait, qui a été choisi, a été l'oratoire de la Transfiguration. Il y a cette idée du mont Tabor. C'est un fait biblique. Quand Jésus amène ses disciples, les trois parmi les 12 les plus proches de Jésus, les emmène au mont Tabor, il est transfiguré devant eux. La réalité de l'adoration, et d'ailleurs ils se prosternent devant Jésus à ce moment-là, alors qu'ils n'ont pas encore réalisé tout à fait la plénitude qui habitait Jésus, la plénitude divine qui habitait Jésus, les apôtres ont mis du temps, eh bien, ils ont quand même fait cet acte d'adoration. Et donc, quand on va à l'adoration, eh bien, on monte nous aussi sur la montagne. On m'a parfois dit que le Saint-Sacrement est un peu haut dans l'oratoire. On avait essayé de le mettre sur l'autel, en fait, au départ. Puis, il s'avérait que c'était pas esthétiquement très bon. Et donc le mettre en hauteur, comme ça se fait parfois, étant donné que c'était aussi l'oratoire de la Transfiguration, ça avait un sens. Donc voilà, on regarde le Seigneur, on adore le Seigneur, sur la montagne, il nous attire. Et cette idée de hauteur, c'est pas pour mettre de la distance, c'est pour prendre conscience que notre âme est appelée à s'élever. Et quand je dis notre âme, c'est pas que notre âme, c'est tout notre être. Thérèse d'Avila, elle dit une phrase forte, elle dit une âme qui s'élève élève le monde. Et là, on a résumé tout ce que l'on veut vivre, tout ce que l'on peut vivre à l'adoration. Accepter d'être élevé, de se laisser attirer, d'être élevé par eux, dans l'acte d'adoration, se laisser prendre, se laisser emporter par l'Esprit Saint, par la présence de Dieu, eh bien, élève le monde. Ça, c'est le mystère même de la prière, ou bien aussi ce qu'on appelle le mystère de la communion des saints. C'est-à-dire que ce que je fais à un endroit, mystérieusement, a une fécondité qui me dépasse complètement. Et qui a une fécondité pour l'autre bout du monde. Vous connaissez l'épisode de la petite Thérèse de Lisieux, qui, très malade, alors qu'elle respirait déjà très difficilement, atteinte de tuberculose, elle marchait dans l'allée des marronniers, et elle s'asseyait quand même souvent, mais elle marchait, et une sœur lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça n'a pas de sens. Vous devriez rester assis, respirer tranquillement. » Elle dit, et Thérèse de Lisieux dit « Moi, je marche pour les missionnaires qui sont fatigués, qui doivent être très très actifs, qui doivent marcher beaucoup, je marche pour eux. » Elle avait une conscience très très forte de la communion des saints, de la fécondité de sa vie offerte dans un endroit par rapport à l'ensemble du corps de l'Église et du monde. Et donc Thérèse sera déclarée plus tard patronne des missions, alors qu'elle est restée dans son carmel. Voilà. Donc ça montre l'importance de la prière dans la vie et l'importance de la prière pour le monde. Certains diront que par la prière des monastères, par la prière des hommes et des femmes qui donnent du temps pour Dieu, du temps d'adoration, du temps de... Eh bien, on a évité des catastrophes. Et ça, on ne le saura qu'au ciel, cette réalité-là. Mais il y a des choses qui se passent, qui dépassent complètement... dépasse complètement toute la question géopolitique et tout ça. Non pas que ce soit pas bien, mais la prière est importante et le Seigneur le demande. Jésus prie des nuits entières alors qu'il n'en a pas a priori besoin, parce qu'il est en communion perpétuelle avec Dieu. Donc Jésus demande que l'on prie, et il demande, et il montre l'exemple en priant des nuits entières, c'est pour nous montrer, c'est comme un exemple pour nous. Donc voilà. Donc je voulais, premier point, je voulais dire que adorer, c'est un acte premier, et il faut bien en prendre conscience et ne pas négliger. Alors, ceci dit en passant, toute prière chrétienne est un acte d'adoration, y compris la célébration de la messe et tout ça, toujours un acte d'adoration. Et là, quand on est à l'adoration devant ce sacrement exposé et puis qui attend dans le silence, eh bien là, on prend conscience encore plus qu'on est vraiment dans l'acte d'adoration. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est intimement lié, on adore et on intercède. L'intercession est un point très très important. Vous savez que pourquoi on a mis une heure d'adoration par personne. Parce que Jésus dit, à Gethsémani, au moment où peut-être il a souffert le plus, finalement, parce que sa souffrance morale ne peut pas être devinée, mais on suppose, vraisemblablement, il a souffert énormément, à ce moment-là précis, dans le doute que ça servirait à rien. Ce qu'il allait faire, donner sa vie. Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus dit à ses apôtres, « Vous n'avez pas été capable de veiller une heure avec moi. » Donc c'est pour cela qu'on propose une heure d'adoration, et c'est pour cela aussi que l'adoration de nuit est une adoration privilégiée. Et ceux qui la vivent, en dehors de l'effort que ça représente pour y aller, ceux qui la vivent disent combien il y a des très beaux témoignages de l'adoration de nuit. C'est pas pour négliger les autres, mais voilà, c'est la réalité. Donc dans l'adoration, il y a aussi ce mystère de la croix. Dans le mystère de la transfiguration, donc il y a Jésus avec Moïse et Élie de chaque côté, et puis donc il tombe en adoration. Et on peut transposer ce lieu de la transfiguration, on peut transposer le lieu de la crucifixion. Et finalement, quand on adore, on est aussi face à la croix. Alors certains ont regretté qu'il n'y ait pas de crucifix dans l'oratoire. C'est vrai que on a essayé d'en mettre un, mais on n'a pas trop trouvé la solution. Mais en même temps, l'Eucharistie, c'est le mystère. C'est le mystère de la mort et la résurrection de Jésus. C'est le mystère de la croix aussi. Quand on est à l'adoration, on est aussi au pied de la croix. On est au pied de la croix avec Marie et Saint Jean. Et nous sommes invités à intercéder, à offrir avec Jésus pour le monde. Intercéder pour le monde. Moi, je sais, en tant que prêtre, je sais que vous savez bien évidemment tout autant que moi, mais c'est vrai qu'en tant que prêtre, on est privilégié à ce niveau-là. Combien il y a de souffrances chez beaucoup de nos contemporains, chrétiens ou non, beaucoup de souffrances, beaucoup d'inquiétudes. Il y a énormément d'intentions qui nous sont proposées, qui sont données. Parfois, c'est même pas sous forme d'intention. Les gens viennent partager simplement comment c'est difficile leur vie. Et puis, il y a des intentions pour le monde, pour la paix, pour Et dans l'adoration, donc, c'est important de prendre conscience qu'on est aussi invité à intercéder, à offrir pour eux. Donc dans les deux choses que je viens de vous dire, l'adoration avec cette idée qu'une âme qui s'élève élève le monde, dans l'acte d'adoration, se laisser attirer par Dieu, et puis dans l'intercession, dans les deux cas, vous pouvez remarquer qu'on ne prie pas pour soi. Et on ne fait pas ça pour soi. Et comme le disait le cardinal Barbarin, on ne fait pas l'adoration pour en tirer des fruits personnels. On ne fait pas l'adoration parce que ça va m'apporter des choses, d'abord, parce que ça va me faire du bien. Ça va faire du bien, c'est sûr. Mais c'est un fruit second. On fait l'adoration comme un acte gratuit, comme un acte de la créature. Sauvé par l'amour de Dieu en son Fils Jésus-Christ, qui veut rendre amour pour amour, et qui vient donc adorer son Seigneur, qui veut se laisser attirer par lui, qui veut offrir le monde avec lui, élever le monde avec lui, intercéder pour notre monde, pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour tous ceux qui sont aussi qui sont loin de Dieu. Il faut prier pour tout le monde. Jésus dit clairement qu'il faut prier pour ses ennemis, donc il faut les aimer aussi. Donc voilà, il n'y a pas de sélection à faire. Donc prier pour ceux qui nous persécutent. Donc on sait que dans le monde il y a des lieux de persécution. Il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Prier pour les martyrs, pour qu'ils puissent professer leur foi jusqu'au bout. Et Dieu sait que le Seigneur donne des grâces spéciales pour ça, et grâce aux prières. Mais priez aussi pour ceux qui sont les bourreaux. Donc voilà, intercéder pour le monde, tout ça, donc c'est pas pour nous. Voilà. Et je crois que c'est important de dire que je fais ça dans un acte gratuit. L'amour se paye par l'amour, Thérèse le disait aussi. Et on fait un acte gratuit quand on a l'adoration. Et un acte gratuit peut être plus généreux, peut-être. Voilà. Mais l'adoration a aussi une conséquence, alors là pour le coup plus personnelle, mais qui a des effets dans le mystère de l'Église, a une conséquence de sanctification personnelle. Je suppose que vous serez d'accord avec l'idée qu'on ressemble à ceux qu'on fréquente. C'est-à-dire si vous fréquentez certains milieux qui vous proposent de la drogue, des trucs un peu n'importe quoi, petit à petit, sauf si vous êtes dur comme un roc, mais sinon petit à petit, vous allez vous laisser un peu faire, Voilà, et puis donc, bien, par exemple, un milieu qui critique tout le temps tout le monde, tout le temps, en permanence, c'est vachement difficile de ne pas critiquer, parce qu'en plus, ça fait du bien, on est content. Voilà, et on peut multiplier les exemples. Donc, finalement, on finit par ressembler à ceux que l'on fréquente, à ceux que l'on côtoie. Vous devinerez tout simplement que quand on prend du temps devant Dieu en silence, devant la pureté et l'amour de Dieu infini, devant tout ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, de mieux, ça a un impact sur ma sanctification personnelle. Il y a des choses que peut-être je me permettais avant, puis petit à petit, des choses vont évoluer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon regard. Il y a une purification de notre être qui est réelle, hein, parce qu'on fréquente quelqu'un qui nous élève vraiment, qui nous met en nous le meilleur. Et ce qui est moins bon en nous, d'ailleurs, il nous propose la miséricorde. Donc, il nous purifie, hein, vraiment. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, hein, dont il faut prendre conscience. Bien évidemment, comme toujours avec Dieu, rien ne se fait si il n'y a pas une sorte de prise de conscience ou un fiat marial, comme Marie. Un oui comme Marie. Oui, je me laisse faire. Je me laisse transformer. Un peu comme, je prenais l'exemple, parce que c'est l'exemple finalement plus facile, on est dans un groupe, on critique facilement. Bon, je peux résister, mais à un moment je peux céder, mais je choisis de céder à un moment et de commencer à faire une petite critique, un petit truc, un petit machin. Et là, c'est, avec le Seigneur, c'est pareil, on est là avec lui et on peut céder à ce qu'il nous propose à être meilleur. Alors, c'est pas que de la vie morale, hein, parce que ça peut sembler comme ça, mais c'est vrai que ça inclut la vie morale, hein, la manière dont on vit au quotidien. C'est aussi être meilleur de façon générale dans notre être, dans notre regard, dans notre être pur, ressembler davantage au Christ. Et donc, il faut le fiat marial, il faut que le fiat de Marie est un fiat qui est un modèle pour nous dans lequel nous sommes invités à nous glisser, parce que c'est un oui parfait. C'est la seule créature, après Jésus, et Jésus était Dieu, hein, mais c'est vrai que lui, déjà, en tant qu'être humain, il a dit oui de façon parfaite au Père, dans l'Esprit Saint. La Vierge Marie, après Jésus, elle a dit oui parfaitement, et pas simplement à l'Annonciation, toute sa vie. Donc nous sommes invités nous-mêmes à dire oui, et il faut dire oui à Dieu pour que ça ait de l'effet. Dans l'Église, rien n'est magique. La magie n'existe pas. Donc quand on fait quelque chose, s'il n'y a pas un oui intérieur en nous-mêmes, rien ne se passe. Donc en ce sens, notre vocation chrétienne est une vocation exigeante. Parce qu'elle demande continuellement de redire notre oui et de renoncer à nous-mêmes. Celui qui ne renonce pas à soi-même, prend sa croix pour me suivre, ne peut pas être mon disciple. Donc il y a quelque chose d'exigeant. Mais cette exigence-là est complètement fécondée ensuite par le Seigneur, et donc c'est une exigence qui devient au final assez facile, parce qu'on voit combien le Seigneur est bon et peut être présent dans notre vie. Donc voilà, donc l'adoration, le troisième point, c'est l'adoration qui sanctifie. Il faut en avoir conscience, il faut désirer, il faut dire oui. Il faut désirer être saint. La petite Thérèse disait qu'elle désirait être une grande sainte. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, parlant avec d'autres jeunes qui disaient, mais c'est de l'orgueil de désirer un grand saint. Un grand saint, un petit saint, oui, pas un grand. Alors, ça dépend ce que ça veut dire derrière, mais si ça veut dire être saint à moitié, parce que les grands saints, c'est que pour certains, ceux qui arrivent à une sainteté telle Thérèse de Lisieux, tout ça, ben non, c'est faux. On peut être des petits saints dans le sens humble, des saints humbles, oui, des saints invisibles, oui, pourquoi pas, des saints que seul Dieu voit, pourquoi pas, ça c'est pas un problème, on peut demander ça. Par contre, être un grand saint, c'est la vocation du chrétien. Il faut avoir de l'ambition dans la vie chrétienne, et comme dit saint Paul, hein, ma gloire, c'est le Christ, je mets ma gloire dans le Seigneur, il n'y a pas de honte à voir ça, donc il faut oser la sainteté, désirer la sainteté, voilà. L'adoration est un lieu pour cela. Le troisième point, c'est l'évangélisation. Quelqu'un récemment m'a interpellé, alors je ne sais plus d'où ça venait, je ne me souviens plus, m'a interpellé sur le fait qu'il avait entendu un enseignement où le prédicateur avait dit que les fruits de l'Esprit Saint, ils étaient trois. Alors moi, j'en disais que deux, alors comme quoi j'étais en dessous. Donc les deux qui sont dans les lettres de saint Paul, fruits de l'Esprit, c'est la paix et la joie. Après, il décline d'autres, mais les deux principaux, c'est la paix et la joie. Donc voilà, fruits de l'Esprit. Alors déjà, bon, on n'est pas toujours en paix, on n'est pas toujours joyeux, donc on peut se dire, bon, peut-être que je ne vis pas suffisamment, je ne sais pas suffisamment faire l'Esprit Saint. Bon, ceci dit, il faut bien comprendre, hein, la paix, ce n'est pas toujours quand tout va bien partout, hein, c'est la paix intérieure, la paix profonde, quelles que soient les situations. La joie, ce n'est pas toujours l'exubérance, c'est finalement qu'au fond de moi-même, même si je vis des moments difficiles, même si j'ai des choses qui me font être triste, au fond de moi-même, finalement, je suis heureux. Je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être fils de Dieu, je suis heureux de vivre avec Dieu, dépendre de Dieu, d'attendre, voilà, d'être quand même en fait. Voilà. Donc c'est pas... Donc, la paix et la joie. Et le prédicateur disait, le troisième fruit, et à la réflexion, je crois vraiment que c'était juste, le troisième fruit de l'Esprit Saint, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire, quand l'Esprit Saint entre dans une vie, quand Dieu vit dans une vie, c'est pas possible qu'on garde le trésor pour soi. Surtout que c'est un trésor qui ne s'épuise pas quand on le donne. Donc, naturellement, on a envie de le porter, de le diffuser autour de soi. Et l'adoration, donc, naturellement, porte à l'évangélisation. Hein, porte à annoncer l'évangile. Alors, bien évidemment, ça se fait dans la prudence, dans le respect, bien évidemment, avec les personnalités. Il y en a parmi nous qui sont timides, sauf si le Seigneur, sauf un miracle particulier du Seigneur, mais sinon ils resteront timides pour l'évangéliser, hein, donc ils vont avoir un peu de mal, mais ils auront envie. Hein, donc on peut, voilà. Et puis il y a ceux qui ont des facilités, alors eux ils parlent avec n'importe qui, parfois peut-être maladroitement d'ailleurs. Hein, donc voilà, il y a de tout. Donc, il y a ce fruit de l'adoration qui est aussi l'évangélisation, le désir de communiquer l'amour de Dieu. Et je voudrais, mais je l'ai dit déjà au mois de mai, quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est de voir qu'on a il y a des personnes qui viennent à l'adoration, hein, qui ne sont pas inscrits, qui viennent à l'adoration, parce que d'autres ont parlé avec eux. Ils ne sont pas trop croyants, ils leur ont dit, ben, allez donc à l'adoration. Et on a des beaux témoignages comme ça. Alors bien sûr, c'est pas... moi, en tout cas, dans ma tête, je n'ai pas d'exemple de témoignage fracassant à la... Comment il s'appelait celui qui s'est converti à l'adoration, hein. Il y avait un qui est très, très connu en 20e siècle. Hein. Claudel, il y a Claudel, mais je pensais plus proche de nous, plus récemment, qui était très proche de Paul VI, qui était un grand ami de Paul VI. Qui s'est converti, qui était communiste, de famille communiste, qui s'est converti en allant à un lieu d'adoration. Paf, j'allais tomber dessus. Donc voilà. Donc, mais c'est une manière aussi d'évangéliser que de proposer, aller à l'adoration. Hein. Alors comme ça dira, c'est pas prudent, on n'a pas préparé les gens. Vous savez, ils font des cœurs. Tu vois, ils font des cœurs, on ne le connaît pas. Et puis bon, voilà, il faut que chacun ait son discernement propre pour cette question-là, mais il ne faut pas hésiter. Voilà. Et puis après, on évangélise de plein de manières. Je vous invite à aussi penser qu'il y a le parcours Alpha qui est proposé sur la paroisse régulièrement. Il y en a encore un autre qui va commencer au mois de janvier. Et que c'est tout le monde qui est invité à inviter des gens pour participer à ce parcours Alpha. Donc il ne faut pas hésiter à le proposer. Voilà. Le cinquième point, c'est la miséricorde. L'adoration, entrer dans le mystère de Dieu, dans le mystère de l'amour de Dieu à travers l'adoration, c'est aussi entrer dans la miséricorde. Bizarrement, on est dans un monde qui veut tolérer tout, qui veut laisser faire tout, hein, dans un monde où il n'y a plus de règles, enfin, où on laisse faire, on dit, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et bizarrement, on n'est pas dans un monde tolérant pour autant. On n'est pas dans un monde miséricordieux. On n'est pas dans un monde où il y a un regard sur l'autre, où on voit la personne avant de voir ce qu'elle fait ou ce qu'elle est. Enfin, ce qu'elle fait. Hein, on est plutôt dans un monde où on juge beaucoup, on condamne beaucoup, et parfois on est très dur les uns vis-à-vis des autres, y compris dans les communautés chrétiennes. Et là, c'est aussi un point très important, c'est il faut avoir l'adoration, regarder Jésus à l'adoration, purifie notre regard et nous permet aussi d'avoir un autre regard sur ceux qui nous entourent. Et d'avoir un regard bienveillant. La situation de la personne, quels que soient ses actes, y compris les pires. Hein. C'est un mystère, un très très beau mystère de voir que dans la vie des saints, le regard que les saints martyrs ont sur leur bourreau est édifiant. Parce que, voilà, on a le sentiment qu'ils les aiment. Ils aiment leur bourreau. Alors que c'est quand même pas tout à fait le moment. Bon, et donc il y a un regard sur l'autre qui est à purifier, et nous-mêmes, communauté chrétienne, on en a besoin. Même au niveau en interne, au niveau ecclésial, le regard qu'on a les uns sur les autres, en fonction de nos milieux sociaux, en fonction de nos sensibilités spirituelles, en fonction de plein de choses, le regard qu'on a sur le pape, même si le pape actuel fait un peu plus l'unanimité que les précédents, mais globalement, on ne peut pas se faire d'illusions, c'est temporaire, sur l'évêque, etc. Je ne vais pas dire sur les prêtres, parce que... Mais pourquoi pas ? Voilà. Et puis le regard entre nous, hein, les uns sur les autres, entre baptisés, voilà, y compris des choses qui nous font mal, qui nous blessent parfois. Voilà, un regard qui soit un regard bienveillant et de miséricorde, qui permette le dialogue et qui permette d'élever l'autre par le haut. D'élever l'autre par le haut. Voilà. Et ça, l'adoration aide à purifier notre regard et à entrer dans une démarche vraiment de miséricorde. Alors, le cœur de l'amour de Dieu, c'est la miséricorde. Ça, c'est clair. Il n'y a pas... Le mystère de la croix, c'est le mystère de la miséricorde divine. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime dans la miséricorde. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la fraternité. L'Eucharistie rassemble. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité. En mangeant un seul corps, nous ne formons qu'un corps. En mangeant le corps unique du Christ, hein, fractionné, nous ne formons qu'un corps. Nous sommes identifiés au corps du Christ. Hein, et nous devenons, par l'Eucharistie, dans la communion eucharistique en particulier, dans la célébration eucharistique, nous devenons, de façon encore plus explicite, plus manifestée, plus réelle, le corps, l'Église, le corps de l'Église, le corps mystique du Christ. Donc nous avons une unité entre nous qui n'est pas une unité de point de vue, qui n'est pas une unité, c'est une unité de foi, mais c'est encore une fois, c'est vraiment une unité de foi et une unité en Dieu, en l'amour de Jésus-Christ. Et dans l'adoration eucharistique, il y a cette même réalité qui se vit. Quand vous êtes en adoration de l'Eucharistie, vous êtes proche de vous, tous vos frères en Christ, et aussi, il n'y a qu'une seule Eucharistie, si on peut dire, dans le monde, célébrée en permanence, qui dépasse le temps, qui est le mystère même du Triduum Pascal, du Jeudi Saint, Vendredi Saint et du Dimanche de Pâques. Il n'y a qu'une seule Eucharistie, c'est celle-là. Toutes les Eucharisties rendent présent l'unique Eucharistie, l'unique offrande du Christ, le mystère pascal, comme on dit depuis quelques années de façon plus régulière, le mystère pascal rend présent ce mystère pascal partout dans le monde. Quand on est en adoration eucharistique, il faut prendre conscience que dans le monde se célèbre, il y a 400 000 prêtres catholiques dans le monde, ils se célèbrent en permanence des messes. On est en présence de toutes les messes du monde, en chaque instant. Il y a une dimension universelle sur la terre, de l'Eucharistie. On est rendu présent, on est rendu proche de tous ces gens-là, ce qui fait que le cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, il disait que les baptisés, vous savez qu'au niveau des prêtres, il y a une discipline assez stricte pour qu'un prêtre qui est ordonné dans un endroit qui aille à l'autre bout du monde, ne puisse pas faire n'importe quoi. Donc il y a un contrôle. Un prêtre doit demander des autorisations, normalement, pour confesser, on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe où. Par contre, un baptisé, c'est ce qu'il disait, un baptisé, quel que soit le lieu du monde où il est, dans toute messe où il va, tous les lieux d'adoration, toutes les églises, il est chez lui. Il n'a pas de... C'est pas ici notre chez lui. Notre patrie, c'est le monde entier. C'est toutes les églises du monde. On est partout chez nous. Et c'est très beau de réaliser ça. Mais bien évidemment, si on peut le dire de façon universelle, on peut le dire aussi de façon plus proche. Nous sommes unis les uns aux autres de façon particulière par notre baptême et par l'Eucharistie. Et donc ça, il faut en prendre conscience et permettre que ça porte du fruit dans nos vies, que ça soit une réalité vécue. Sur la paroisse, donc cette année, donc l'année dernière, les deux premières années, c'était plus un certain nombre de points sur la dimension de la prière, proposer un certain nombre de choses d'ordre plus spirituel. Cette année, on accentue plus sur la fraternité communautaire. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés ? Il a donné sa vie. Tous ces trucs-là, c'est pas négociable. On peut pas dire, oui, peut-être que je peux un peu moins, peut-être que finalement, peut-être qu'il a dit ça, mais que je peux faire différemment. C'est une réalité qui s'impose à nous, c'est une exigence, c'est un commandement, c'est plus haut des commandements, donc c'est incontournable, nous sommes invités à rentrer dans cette démarche, qui là encore est une démarche exigeante, parce que, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Dieu, il y a un renoncement à soi. L'amour de l'autre, la charité vis-à-vis de l'autre, exige un véritable renoncement à soi-même, parce que ça veut dire... ne pas toujours être au centre et puis ne pas toujours donc avoir raison ou ne pas toujours se retrouver qu'avec nos amis naturels qui pensent comme nous globalement donc sur la paroisse on insiste là-dessus puis là on proposera à partir de la solennité de l'Immaculée Conception le 8 décembre on va mettre en place des fraternités paroissiales qui seront ouverts à ceux qui voudront et qui les sont pour permettre que la réalité de communion entre nous soit une réalité vécue et pas simplement une réalité théorique on dit oui, bien sûr, on est de la même église, mais concrètement, on ne se parle pas. Ça ne change pas grand-chose, quoi. On n'irait pas à l'église, ce serait pareil. Voilà, donc pour vraiment pouvoir l'incarner davantage dans notre vie. Voilà, bon, je vais terminer comme ça. Donc, j'ai pas du tout dit tout ce que je voulais dire, mais ça, c'est pas grave. Je regrette d'avoir été un peu plus théorique que je le pensais, parce que je voulais accentuer des points plus précis sur l'adoration. Simplement, pour conclure, avant deux remarques. La question des sécheresses, du dégoût, on peut avoir des temps de dégoût, on n'a plus envie, et des tentations dans la prière. Alors, il faut savoir que, quelle que soit notre manière de prier, notre technique, notre méthode de prière, chacun, on essaie de trouver un peu ce qui nous convient, quelle que soit notre technique de prière, on fait toujours l'expérience, à un moment ou l'autre, de la sécheresse, ou et du dégoût, ou et des tentations, quelle que soit la méthode. Il ne faut pas s'en étonner, se troubler ou s'inquiéter. Et même ces sécheresses sont bonnes. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on sait si on aime vraiment Dieu, gratuitement, ou pour ce qu'il nous donne, ou pour ce que je ressens. C'est quand il n'y a plus rien que je sais que je ne marche pas. Je ne suis pas comme un âne qui marche parce qu'il y a une carotte devant, mais je marche de moi-même. J'ai choisi d'avancer vers le Seigneur car j'ai confiance en lui. C'est à ce moment-là que je sais. Et il y a un autre phénomène, c'est que ça fait partie d'une pédagogie divine, une manière de faire de Dieu qui, après nous avoir encouragés, nous met dans la difficulté pour que nous puissions prendre conscience de notre motivation réelle et aussi pour nous purifier intérieurement de tout ce qui n'est pas vraiment de l'amour gratuit pour lui. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on vient, voilà. Et ça nous purifie intérieurement. Alors, si on a un accompagnement spirituel, c'est bien de pouvoir en parler de ces difficultés. Voilà. Et puis, les distractions, elles aussi, avoir des distractions, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est ne pas se complaire à la distraction. Quand on s'aperçoit qu'on a une distraction, quand on prend conscience qu'on a une distraction, si c'est un truc très important, parce qu'on a du boulot le lendemain, on est en train d'organiser, ça arrive souvent, ça. On organise son travail. Parce que, c'est, évidemment, une heure calme, d'un seul coup, ça permet de clarifier les idées. Et bien, dans ce cas-là, on écrit, on a peur d'oublier, on prend un petit carnet, on écrit le truc dessus, on range, et on revient à la prière. Et on n'y pense plus, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Le moment, c'est de se consacrer à la présence de Dieu. Ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais se décourager dans tout cela, dans les distractions non plus, de ne pas se décourager, même si elles sont très violentes, même si on a l'impression qu'on est assailli. Thérèse d'Avila dira que parfois, c'est comme des mouches, on les écarte, mais elles reviennent. Et même les gens qui sont en union avec Dieu ont encore des distractions. C'est-à-dire dans la prière intime avec Dieu, même ceux qui sont vraiment très très unis à lui, ils continuent à avoir cette faculté naturelle en fait du cerveau de partir à droite à gauche, tout ça. Donc il ne faut pas non plus en déduire qu'on est les pires de tous. On a toujours. Voilà. Bon, et la distraction permet aussi d'accepter que nous soyons pauvres dans la prière, d'attendre davantage que Dieu intervienne pour nous aider à prier. C'est aussi tout ça qui est un avantage. Voilà. Voilà, maintenant, deux considérations. Enfin, deux, c'est pas des considérations, c'est des petits trucs, des remarques pratiques. À partir du mois de janvier, il va y avoir un certain nombre d'étudiants qui vont partir en stage, comme tous les ans, qui partent en stage dans d'autres pays. Donc on va avoir un certain nombre de créneaux qui vont être fragilisés, voire même des créneaux qui vont, où il n'y aura plus d'adorateurs. Hein. Donc, je vous le communique parce que c'est important, ce que je disais au début, c'est important de prendre conscience qu'il faut toujours appeler des nouveaux adorateurs. Et il y a des nouveaux. Moi, je suis surpris, quand je fais les entretiens avec les gens, quand je parle de l'adoration, ben, beaucoup, en fait, beaucoup disent, ben oui, j'ai pas pensé, ou bien non, je ne suis pas encore inscrit, il faudrait que je le fasse, je ne sais pas s'ils le font. Mais... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut proposer, hein, vraiment. Et il ne faut pas hésiter. Hein. Il faut recruter donc des nouveaux adorateurs en permanence. Donc je le dis parce qu'en janvier, on aura une petite échéance là, importante. Sinon, un autre point pour terminer, faire attention à se faire remplacer. Même parfois, quand il y a des binômes, on souhaite qu'il y ait des binômes à toutes les heures. Ce n'est pas le cas, hein, mais on souhaite qu'il y ait des binômes à toutes les heures. C'est le but qu'on a présenté au Seigneur. Puis maintenant, il faut que les cœurs humains se convertissent pour que le Seigneur puisse appeler, mais voilà. Même quand il y a des binômes, parfois, il arrive qu'il n'y a pas d'adorateur. Alors, je pense que c'est un problème de communication et tout ça, mais en tout cas, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est quand il y a un binôme et quand on s'absente, c'est pas parce qu'on est deux qu'on se dit que l'autre, il va y être. Il faut vérifier. Avec un SMS, c'est très facile. Hein. Ou bien, voilà, un autre moyen, mais il faut vérifier est-ce que tu seras bien là, parce que justement, il est arrivé et il arrive que même quand il y a des binômes, il y a des absences à l'adoration et qu'il n'y a pas d'adorateur. Donc, comme je vous le disais hein, tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette attention à ne pas laisser le Seigneur seul, c'est important. Hein, c'est une chaîne de prière qui est mise en place. Cette chaîne a une signification, hein, c'est pas magique, hein, mais c'est une signification, ça veut dire quelque chose sur ce qu'une communauté veut vivre. C'est un respect pour notre Seigneur, hein, aussi. Pour les autres adorateurs aussi qui vont venir derrière, parce que quand ils ont personne, ils arrivent dans un oratoire vide, ça fait quand même bizarre. Parce que normalement, justement, ce qui est beau dans l'oratoire, c'est qu'on y va, on a du monde, on se dit, ah, il y a des gens qui prient, c'est super, ça nous aide même à prier. Voilà, mais bon, voilà. Et puis, c'est bon, voilà, c'est cette prière continuelle qui est importante. Voilà, puis ça perturbe, bien évidemment, quand il y a des trucs comme ça, quand ça nous revient régulièrement, hein, ça perturbe un peu l'organisation de l'adoration, parce que on a l'impression que c'est hyper fragile, hein, ce que je ne crois absolument pas, d'ailleurs, mais voilà, on a l'impression que finalement, ça tient que sur un fil, et que d'un moment à l'autre, ça va casser. Je pense pas, parce que c'est dans les mains de Dieu, donc il n'y a pas de souci, mais quand même, voilà. C'est important de voir que cette chaîne de prière, pour qu'elle marche, il faut que ce soit vraiment une chaîne, qu'elle ne soit pas interrompue, et que, voilà, que c'est important pour tout le monde, y compris pour l'évangélisation, etc. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, pendant 10 minutes, jusqu'à, donc ça va très court, hein, c'est que vous vous retrouviez par tranche horaire. Alors s'il y en a qui sont tout seuls dans leur tranche horaire, ils se mettent avec une autre, pour vous présenter dans un premier temps, hein, si vous ne vous connaissez pas, puis pour dire, donc présentez-vous vite, hein, surtout pour les gros groupes, présentez-vous vite, et puis après, une fois que vous avez fini de vous présenter, vous dites un petit peu ce que vous vivez à l'adoration. Voilà, ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. S'il y en a qui vivent des grandes expériences mystiques, vous n'êtes pas obligé de les dire. Hein. S'il y en a qui vivent rien, vous n'êtes pas obligé de ne pas le dire. Vous pouvez le dire. C'est au cas où ceux qui ont des grandes expériences, ils disent, bon, qu'est-ce que je fais? Et ceux qui n'ont pas d'expérience, enfin, ceux qui ne vivent rien, ils disent, oh, peut-être que ce n'est pas normal, je suis peut-être un handicapé de la spiritualité, de la prière. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Pas vrai du tout, du tout, du tout. Mère Teresa, 40 ans, sans rien. Thérèse de Lisieux, 2 heures d'oraison, 2 heures de sommeil. Et puis, on pourrait prendre Saint Paul de la Croix, 40 ans aussi de désert spirituel. Donc, de grâce, là-dessus, il n'y a pas à se prendre la tête. Et ceux qui ont des expériences mystiques très fortes, qui voient Jésus et tout ça, ça ne veut pas dire, il faut vérifier, il faut discerner. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement Jésus dès le premier coup. Il faut vérifier que ce n'est pas le démon qui est en train de nous tenter. Donc, voyons. Donc, il faut vraiment, là-dessus, il faut être très à l'aise. Voilà. Donc je vous invite à vous retrouver donc en petit groupe pendant 10 minutes. Merci.